La neige, le vent, les étoiles, pour certains, ce n'est pas assez.
La Fontanelle. Fragile,
sensible et politique.
Radio Fontanelle, nous sommes le 25 juin au Cirque Romanès, chez Delia et Alexandre Romanès, les bien-nommés qui nous accueillent dans la caravane cuisine. C'est la canicule, il fait 35 degrés, il y a en trame de fond le bruit du ventilateur, il y a pas mal de passages dans la caravane, c'est la vie qui bat son plein, sans compter les voitures environnantes. Nous attaquons la fleur au fusil, l'entretien. Bonjour Alexandre, bonjour Delia.
Bonjour.
Bonjour Zaza.
Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous faites et comment vous êtes arrivé à ce projet du cirque romanès?
Moi, ce que je peux dire, que le cirque tzigane romanès, déjà, et je le précise, c'est le seul cirque tzigane au monde et le dernier aussi. Alexandre, il développera ça mieux que moi. Et moi, il m'a trouvé dans le campement tzigane de Nanterre en 90. Moi, j'étais un petit peu avant, dedans. Et il y avait beaucoup de caravanes. Il y avait presque 3000 caravanes. Voilà. Et puis le cirque, il est parti de là. Aujourd'hui, on est encore en train de vouloir exister, de tenir. Et c'est très, très dur.
Alors le cirque romanès vient de très loin quand même, puisque dans ma famille, on était des monteurs d'ours. Le dernier qui a fait ça, c'est mon grand-père. Il avait 3 femmes et 1 ours. Il disait, l'embêtant, c'est l'ours. Il arrivait dans le village avec sa petite caravane en bois tirée par un cheval. Il mettait quelques tapis sur la place du village. Ses enfants faisaient des numéros d'acrobatie, de jonglage, de contorsion, et puis après, les 3 femmes arrivaient après, elles dansaient, et puis lui, la merveille, arrivait à la fin avec son ours. Et en fait, j'ai un cousin qui a fait des recherches, il a réussi à remonter 200 ans en arrière, et 200 ans en arrière, nous sommes déjà montreurs d'ours.
Moi, je viens d'une famille de musiciens. Mon père il était un très grand musicien, ma mère chanteuse, mais comme on était très pauvres en Roumanie, puis il y a eu toujours cette espèce de racisme, la discrimination très très forte. D'ailleurs, ça continue pendant le temps de Ceausescu. Donc voilà, nous on ne faisait que ça. Il m'a dit on va faire ce cirque.
En fait, on n'est pas de la même tribu. Alors on est tziganes tous les deux. Oui, parce que déjà, avant de nous mettre devant les micros, vous avez prononcé plusieurs fois le mot « Rome ». Je le conteste. Quand nous sommes entrés en Europe, on est entrés par la Grèce et on s'appelait les Tziganes. Et après, dans tous les pays, on nous a donné des noms différents. Gitans, Manouches, Bohémiens, Romanichels. Et le dernier qu'on nous a affublé, c'est « Rome ». Alors, je connais très bien la personne qui a lancé cette affaire.
On peut connaître son nom ?
Oui, Vanco Ruda. Alors, il me dit, voilà, l'idée, c'est que toutes ces appellations qu'on a nous font un tort terrible. Donc, on va effacer tout ça. Et lui, il avait ses entrées au niveau de l'Europe. Il a pu l'imposer. Et au lieu de dire Manouche, Bohémien et tout ce qu'on veut, eh bien, on va tout regrouper sous le nom de Rome. Alors, je lui ai posé une question toute simple. Si on enlève le mot juif, est-ce qu'on enlève l'antisémitisme ? Il me répond, il me dit non, on n'enlève rien du tout. Donc je lui dis donc, ça n'a servi à rien. Et il a quand même reconnu que ça n'avait pas servi à grand chose.
Tu l'avais dit, qu'est-ce que ça veut dire en romanesque
Oui, alors en plus, on a fait un saut de plusieurs millénaires en arrière, puisque les Gaulois, les Germains, les Égyptiens, avant d'avoir ces noms que je viens de citer, dans la préhistoire, comment est-ce que les gens s'appelaient? Les gens disaient les hommes. On disait les hommes. Bon, et Rome veut dire homme. Donc là, on a fait un saut de 3-4 000 ans en arrière. Et du coup, on n'a plus de nom. Puisqu'on s'appelle les hommes. Voilà le résultat de cette affaire.
Comment vous définissez-vous, justement?
Tzigane.
Tzigane.
Bien sûr.
Alors, tzigane, ça reste, il me semble, un terme général. Ça ne précise pas les singularités au sein du groupe.
Non, ce qui précise les choses, c'est le fait d'appartenir à une tribu et pas à une autre. Delia est de la tribu des Lovari. Moi, je suis de la tribu des Sinti. Alors, les Sinti, c'est souvent des artistes. Les Lovari, ce sont des marchands de chevaux. D'ailleurs, un jour, on avait fait une radio, je ne sais plus laquelle, et j'avais dit pour plaisanter, les Lovari sont des marchands de chevaux et ils sont un peu aussi voleurs de chevaux. Et Delia avait attrapé le micro en disant « Oui, mais c'est vrai, mais vous, les Sinti, vous êtes des voleurs, tout court. »
Mais en fait, le mot tzigane qu'on a depuis, voilà, je parle depuis mille ans, presque mille ans, pourquoi d'un coup, on effacerait toute notre histoire? Comment est-ce qu'on peut la balayer comme ça, avec un coup de balai? C'est pas possible. C'est notre identité aussi culturelle, il y a toute une histoire. Et puis ces gens-là, ils nous ont même pas demandé, ce qu'ils ont demandé l'avis de quelqu'un. Il y a juste quelques personnes qui ont décidé pour tout le monde, c'est pas possible.
Et puis est-ce que ça s'accompagnait pas aussi de la reconnaissance, peut-être à la manière dont les Juifs l'avaient fait, d'une langue, d'un drapeau, du génocide?
Ça, c'est épouvantable. Ouais. Il y a des gens chez nous qui ont sorti un drapeau. Il y a un hymne national que je déteste, c'est « Je l'aime, je l'aime ». C'est la chanson la plus laide du répertoire tzigane. Et de toute façon, avoir un hymne national et un drapeau, quand on voit quand même le drame du conflit israélo-palestinien, franchement, ça ne donne pas envie d'aller... Puis les États, il y en a une centaine, qui en est 100 ou 99, qu'est-ce que ça change?
Puis on n'a pas de pays, on n'a rien, donc au moins essayons de garder notre identité, notre histoire.
C'est peut-être notre force, c'est qu'on n'a pas de pays.
Voilà.
Alors justement, la question du nomadisme et de l'itinérance... C'est aussi une question qui, en ce moment,
c'est très important.
Est polémique.
Oui.
Est importante, mais est polémique. Comme le terme rome, comme l'origine
pourquoi
indienne.
Pourquoi polémique? Pourquoi?
Je ne sais pas pourquoi, mais parce c'est que vrai qu'il y a des historiens qui remettent ça en question.
Ah ben maintenant, on a des historiens qui nous disent qu'on a toujours été en Europe. Nous avons des historiens qui nous disent « Je n'ai jamais vu une tzigane avec une jupe longue ». Nous avons des historiens qui nous disent, je ne sais plus quel genre de bêtises on nous sort, on a toujours été des sédentaires, jamais des nomades. Il y a des historiens qui disent, nous étions une ville dans le nord de l'Inde, on a été enlevés par un prince qui nous a amenés dans l'actuel Afghanistan pour élever le niveau du pays. Mais moi, je pose la question, une ville où il n'y aurait que des artistes, c'est invivable. Quelle est la ville qui peut vivre où il n'y aurait que des musiciens, des poètes et des peintres, et des danseurs? Elle ne tient pas, la ville. Donc, on nous sort pas mal de bêtises. Et moi, j'essaie d'être cohérent. Par exemple, je sais qu'en Inde, puisque c'est de là qu'on vient, en Inde, il y a encore des tribus nomades. Il y en a. Elles viennent toutes du Rajasthan. Or, nous savons que nous venons du Rajasthan. Donc, cette idée de ville, j'aime pas les mots anglais, moi, mais rapti, c'est peut-être anglais, non? J'utilise pas ce vocabulaire à la gomme. En tout cas, cette ville où il n'y a que des artistes et kidnappés, on peut dire, moi, j'ai du mal avec ça. Par contre, les tribus nomades en Inde qui viennent du Rajasthan, et nous, on vient du Rajasthan, je n'affirme rien, mais ça me parle un peu plus. Voilà. Quant à ceux qui disent qu'on n'est pas des nomades, oui, eux ne sont pas des nomades. Alors évidemment, ils défendent la sédentarisation. Il y a des pays où il a été carrément interdit. C'est le cas de la Roumanie. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays.
Mais Alexandre, voilà. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être des stéréotypes qui ont été véhiculés par des gens qui n'étaient pas tziganes,
justement ?
Non,
je crois qu'on veut nous faire payer notre liberté. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui, à l'âge de 3 ans, ils sont déjà entre 4 murs dans une école. Ils sortent de l'école, ils sont dans un bureau, ils sont encore entre 4 murs. Ils ont toujours été entre 4 murs. Je n'ai rien contre, mais pourquoi nous faire payer que nous, nous détestons les murs? D'ailleurs, il y a un poète gitan qui s'appelle Jean-Marie Kawitsch, et il écrit, parlant des sédentaires, « Ils construisent des murs et ils détruisent le vent. »
Mais est-ce que pour autant, l'un et l'autre, Delia et Alexandre, vous pensez qu'il y a quand même des stéréotypes qui sont véhiculés sur les tziganes?
Oui, les voleurs d'enfants.
Voilà, alors est-ce qu'il y a aussi des bons stéréotypes et est-ce qu'on peut distinguer, est-ce que ça existe les bons stéréotypes? Est-ce qu'on peut distinguer des bons et des mauvais stéréotypes? Est-ce qu'on peut discuter de ça avec vous deux?
Je ne sais pas, parce que les tziganes, les gitans et comme on nous appelle maintenant les roms, ça fait peur. Donc voilà, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes coutumes quand on va des vrais palais. Celles qui gardent encore les coutumes, habillées dans des grands jupes. Moi déjà, quand on me voit comme ça dans la rue ou je veux rentrer dans un magasin, ils me disent, sincèrement, même encore aujourd'hui, sors dehors, il n'y a rien à voler. Donc voilà, comment expliquer ça? C'est la peur, c'est l'époque, ça a toujours été. Notre façon de penser, pas les choses matérielles, ça ne nous intéresse pas.
Je ne sais pas si on peut parler de bons stéréotypes. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'au XIXe siècle, en Occident, être tzigane, c'est un plus. J'irai loin, bien loin, comme un bohémien, comme un tzigane, heureux comme avec une femme. C'est Rimbaud. Mais tous les grands artistes de l'époque se prétendent bohémiens. Et moi, je vais un peu plus loin. Les trois personnages féminins les plus forts, les plus beaux, les plus forts dans la littérature française, c'est trois gitanes, trois tziganes. Souvent je dis gitanes ou tziganes, mm-hmm. qu'on comprenne mieux. C'est Esmeralda, c'est Carmen et c'est Delia.
Ah dis donc, j'ai jamais entendu. Oui? Et pourquoi tu dis ça de moi alors?
C'est vrai, c'est la vérité.
Et pourquoi?
J'ai écrit des très belles choses sur toi. Sauf que toi, tu ne le vois pas.
Alors, mais tu exagères un petit peu parce que je suis ta femme, alors tu dis que
non,
je suis le plus fort des personnages.
Ça, je n'ai jamais entendu. Un petit peu de ta pratique, Delia.
J'ai fait dans ma vie, comme dans le travail, je suis vraie, instinctive. C'est des choses imprévues que je fais tout le temps.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Les femmes tziganes et gitanes, elles sont très débrouillardes. Ça a toujours été depuis la nuit des temps, depuis qu'on en existe. Elle s'occupe de tout, de la famille, c'est notre rôle, c'est ancré, c'est en nous, alors je sais pas si...
Mais tu chantes, tu as une pratique artistique?
Bah, oui, je chante depuis quand je suis tout petit, donc c'est naturel. Moi, ma grand-mère, elle me disait, tu sais ma fille, ma petite fille, nous on n'a pas de pays, on n'a pas des hôpitaux, des tribunaux et tout ça, parce que Dieu il avait fait une réunion il y a très longtemps. Avec les hommes de tout, comment dire ce mot-là, parce que j'aime pas le mot, de toutes les origines, de toutes les couleurs. Et qui c'était qui était en retard? C'était les tziganes, parce qu'il a trouvé un champ avec des fleurs, il s'arrêtait, puis il s'est endormi. Il a tellement joué. Et il est revenu en retard à cette réunion, et Dieu, il avait tout partagé, ce qu'il avait à donner aux hommes. Et puis, il est venu, il a dit, ah, mon Dieu, mais t'es venu en retard, j'ai plus rien à te donner. Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai vu un champ avec des fleurs, c'était tellement bien. Je me suis endormie. Bon, elle a dit, j'ai plus rien pour toi. Ce que je vais te donner, c'est la musique. Voilà.
Dans l'Empire turc, les dirigeants de l'Empire, avec le Pacha et tout ça, ont répertorié 17 peuples et demi. Et le demi-peuple, c'est nous. Moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très intéressant.
Explique-nous pourquoi.
Nous sommes le seul peuple qui ne veut pas laisser de traces. Tous les peuples veulent se mettre en avant. Tous les peuples veulent dominer les autres. Et nous, on ne veut pas laisser de traces.
Alors toi, tu parles de volonté de ne pas laisser de traces. Et Delia parle... d'ambition de ne pas le faire. C'est pas tout à fait pareil, il me semble.
C'est-à-dire que dans l'esthétique tzigane, la réussite sociale n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on ne veut pas aller à l'école, faire des études pour devenir architecte, je ne sais pas, un médecin, il n'en est pas question. En plus, nous avons une médecine. Et la nôtre, elle guérit beaucoup de choses que l'Occident ne guérit pas. Mais on ne veut pas aller à l'université. Ça en fait partie. L'héritage n'existe pas.
Pourtant, il me semble que vous êtes dans une réussite, une forme, on va dire. Il ne s'agit pas de numéraire, mais dans une forme de réussite sociale et de reconnaissance, malgré tout.
Ça m'a un peu échappé, tout ça. Moi, mon idée, c'était d'abord un cirque encore plus petit, et puis aller de village en village, et surtout pas dans les grandes villes. Je disais, si on arrive à manger avec ça, formidable. Alors on a dépassé tout ça, on a été au-delà. Mais heureusement, on ne sait pas gérer, donc on n'est pas riche. On fait de l'argent, mais on est pauvre.
Pour moi, ce qui est beau de cette reconnaissance, c'est juste le fait comme on est et de se faire accepter. Donc voilà, parce que comme on est un peuple qui est très croyant et très pacifique, c'est ça ce qu'il est en train de dire Alexandre. Nous, ça nous suffit de ce qu'on fait, de l'instant présent avec notre famille. Si les gens, ils aiment ce qu'on fait dans la musique, mais c'est tant mieux. Parce que pour nous, les artistes, notre devoir, c'est rendre les gens heureux. Donc ça nous fait plaisir aussi. Voilà, cette espèce de reconnaissance qui est juste, peut-être, je ne sais pas moi, philosophique, je sais pas, humaine.
Et tout à l'heure, tu as dit, j'aime pas le mot nationalité.
Non, on n'aime pas les frontières. Le peuple tzigane, il a toujours circulé sans avoir... On n'aime pas rester sur place, ce qu'il disait Alexandre, déjà. Ceausescu, il nous a obligés des forces. Il nous a sédentarisés dans des maisons en Roumanie. Et là, ce qui me fait très très peur, parce que maintenant en France, ils veulent faire la même chose. Raser tous les campements tziganes. Et moi, je viens de ce campement, mais une ville extraordinaire. Et pourquoi pas simplement nous accepter?
Est-ce voilà. Que tu pourrais juste développer justement sur tes souvenirs au moment où tu étais à Nanterre et la manière dont s'organisait la vie sur ce site?
C'est-à-dire que nous, depuis la nuit des temps, depuis toujours, on aime vivre en communauté. Ce qui est le plus terrible pour un tzigane, c'est la solitude, c'est d'être séparé de sa famille. Donc c'est pour ça qu'on vit en communauté et ça nous va très bien. Et on aime ça. Donc voilà, le mot vivre ensemble, on n'a pas besoin de le revendiquer parce qu'on l'a toujours fait. Donc.
Non, mais il y a un mot important que tu ne dis pas, c'est que c'est une société matriarcale. Parce que je peux vous raconter une petite histoire qui montrera un petit peu l'esthétique de la tribu. Quand j'étais enfant, mon père me prenait par la main et avec ses frères et ses cousins, ils étaient une douzaine, ils allaient au café. Alors ils ne s'asseyaient jamais à une table. Ils se mettaient tous devant le comptoir, ils commandaient un petit verre de rhum et un café ou un thé. Et mon père joignait ses deux mains comme ça. Son frère à côté lui versait le verre de rhum, il se frictionnait les mains et il buvait son thé ou son café. Et tous les hommes qui étaient au comptoir faisaient la même chose. Et ils ne fumaient pas. Et puis ils s'en allaient. Les femmes arrivaient après, leur grande jupe, leur foulard, commandaient un verre de rhum, un café. Elles buvaient leur verre de rhum, après elles buvaient le café. Après elles s'allumaient une cigarette, fumaient une cigarette, et elles rentraient au campement. Voilà ce qu'on est en train de perdre. Et c'était une société dominée par les femmes. Je sais quand une famille est encore tzigane et quand elle ne l'est pas. C'est parce que c'est pas le tout de dire « je suis ». Comme la femme est le point central de la famille et de la tribu, quand les femmes chez nous se mettent en pantalon ou qu'elles raccourcissent leurs jupes, je sais qu'ils ne sont plus des tziganes. Ils sont sortis de l'esthétique tzigane. Ils sont en train d'en sortir ou ils sont sortis. C'est comme tirer sur les mailles du tricot, vous savez. C'est pareil. Alors là, après, la langue est perdue, la pudeur est perdue. La pudeur chez nous, elle est presque maladie. Après, le mariage devient différent. Les gens quittent le nomadisme et vivent dans des maisons. Ben, dans des maisons, ben, notre culture, elle est morte. Le mariage tzigane, le garçon et la fille, ne montrent rien. Ils quittent discrètement le campement et ils reviennent le lendemain matin. Et le lendemain matin, tout le monde les prend les deux dans les bras les deux familles, des fois même deux familles qui se détestent, ils prennent le garçon et la fille dans les bras, ils sont mariés. Et on ne peut pas casser un mariage avec Tzigane. Le divorce n'existe pas chez nous.
La preuve.
Et il n'y a pas de...
condamné.
Il n'y a pas de papier, et il n'y a pas de monsieur le maire. Alors on va devant monsieur le maire 15 ou 20 ans plus tard pour régulariser un peu les papiers. Mais pas toujours d'ailleurs. Et les femmes donnent des prénoms féminins aux garçons.
Ah, explique-nous ça.
Alors mon fils s'appelle Sorine. J'ai un neveu ici qui s'appelle Aline. Un beau-fils qui s'appelle Dorine. Un autre qui s'appelle Cataline.
Qu'est-ce que tu penses de ce que vient d'expliquer Alexandre à propos des femmes, du matriarcat et de leur place dans le groupe?
Mais elle a dit la vérité, c'est tout à fait ça. Par contre, pour la femme, Tzigane, c'est très très important l'homme. Elle le voit comme Dieu, elle le protège, elle a un tel amour. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. On n'est pas maltraité, c'est pas comme on dit aujourd'hui. C'est un plaisir de servir son homme.
Mais ça se manifeste comment cette société?
On ne les laisse pas toucher, c'est nous qu'on veut les servir.
Mais comment, Alexandre disait que c'était une société matriarcale. Vous avez des exemples?
C'est la femme qui décide.
Attendez, Léa.
Qui est le porte-parole et comment? Alors, pour avoir quelque chose de concret et qu'on puisse se faire une idée,
c'est
moins
une
abstraite.
Société matriarcale, mais on est peut-être les seuls aussi dans le monde où elles ont mis les hommes sur un piédestal. Nous, ce n'est pas les églises. On n'est pas du tout dans les églises, ne nous intéresse pas. C'est la croyance en Dieu. Et un ami m'avait dit, il avait étudié la chose, il m'avait dit. Elles vous ont mis sur un piédestal parce que pour elles, l'homme c'est Dieu. Et je crois que c'était pas idiot d'avoir vu la chose comme ça. Et en même temps, elles décident quand même d'à peu près tout.
Oui, donc il y a une forme de paradoxe, par exemple.
Oui. Mais c'est la femme qui décide.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus,
bien, ça.
En nous parlant un tout petit peu plus de manière très concrète au sein du cercle Romarnès, de votre binôme qui est...
Qu'il se plaît. Nous deux, on est Laurel et Hardy.
Alors, explique Alexandre. Qui est Aurel déjà, qui est Hardy?
Je crois que le gros Hardy, c'est moi.
J'ai décidé de réfléchir, d'être un petit peu... J'ai dit, tiens, je vais lui donner cette tâche.
En tout cas, je te vois sur les réseaux sociaux très présente, Delia.
Je pense que ça compte et chaque parole, elle compte. Je trouve que voilà, il parle juste. Donc c'est pour ça que je le laissais faire et je l'ai mis en avant, justement, et je l'ai supporté, et je le supporte encore.
C'est une bizarrerie, cette histoire.
Mais après, il n'est pas touché dans tout ce qui est papier, tout ça, il allait sur le réseau. Oui, il a mis 10 ans pour apprendre son numéro de téléphone, un portable, que c'était le mien. Quand même, il porte bien la parole des activités du cirque romanais, il s'exprime bien, et puis... À côté, j'ai beaucoup, beaucoup de liberté, je fais ce que je veux, c'est moi qui tiens toujours la caisse. Donc ça, c'est formidable, il faut que les femmes, elles le sachent. Il écrit ses poèmes, des poésies, des textes, et je trouve que c'est déjà beaucoup de faire ça. Je me suis pris ces corvées, et qui pour moi aussi, ça devient très, très beau.
Oui.
Parce qu'on n'est pas fait pour ça non plus.
Alors, j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière. Tu as évoqué, alors c'était à la suite des stéréotypes, mais ce n'était pourtant pas lié, trois personnages féminins, qui étaient celui de Carmen, celui d'Esmeralda et enfin celui de Delia. On a lu dans un livre qui a été écrit par le chercheur Étienne Léby, qui était de l'utilité politique des Roms. Il parle de la pensée coloniale et de sa conception de celles et ceux qui lui sont étrangers, et il dit « Le sauvage est apprécié lorsqu'il obéit à des rites et que nous imaginons les siens. » Je voulais le mettre en parallèle avec ces personnages de la littérature qui sont charismatiques, auxquels on peut s'identifier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dans ce que proposent nos systèmes dominants, je dirais cette injonction à adopter des modèles et à y coller?
Qui s'adapterait à quel modèle?
Par exemple, en fait, ça rejoint un peu la question sur les bons et les mauvais stéréotypes. Donc, est-ce que ces bons stéréotypes permettraient d'une certaine manière de coller aux stéréotypes dominants, on va dire?
Moi, ce que je sais, c'est que nous n'avons aucune des conventions de l'Occident. Aucune. C'est ça notre décalage avec le... Alors, on n'a pas du tout le projet de renverser un gouvernement ou de lancer des avions sur la tour Montparnasse, pas du tout. Ni même d'obliger les femmes à avoir des jupes longues. J'ai envie de dire, tout est différent chez nous. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'amuse, c'est de passer, parce que la culture française, je la connais assez bien, pas trop mal, on va dire, et je passe de l'un à l'autre, et ça, c'est une chose qui m'amuse beaucoup. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Personne ne comprend ces femmes qui sont dans la rue avec un enfant de 3-4 ans. Elles font la mendicité et l'enfant est sur le trottoir. Alors, il faut comprendre quelque chose. L'enfance, chez nous, n'existe pas. Alors, on peut trouver que c'est cruel, on peut trouver que c'est inhumain, que c'est pas bien. Oui, mais c'est comme ça. Je n'y peux rien. C'est pas moi qui vais changer les choses. L'enfant n'existe pas. Il est... pas quand il a 3 mois. Mais dès qu'il commence à parler, à marcher, hein, il est déjà considéré comme une personne. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Ça ne se fait pas d'offrir des jouets à un enfant. Je me souviens de ma fille Alexandra, elle était petite, elle avait 7-8 ans, et une dame lui amène une très jolie poupée au cirque. Elle a attrapé la poupée par la jambe, elle l'a regardée, puis elle l'a jetée.
Il a cassé les jambes.
Ça m'a fait plaisir.
Oui, et justement, tout à l'heure, tu disais que finalement, il y avait des personnes qui se revendiquaient encore gitans, mais qui finalement avaient, je ne sais pas, on pourrait dire, vendu leur âme au diable et au système, et que à leur tenue, à leur manière de parler, à la manière de s'installer dans la vie, pour
au
toi, tu les considérais plus comme gitans. Et ça me posait la question de la créolisation, qui est un peu un concept d'un philosophe qui est Édouard Glissant, qui parle d'une culture hybride par le frottement, justement.
Édouard Glissant, qui est antillais, je crois.
Voilà, qui par le frottement des cultures. Et que donc ce frottement des cultures pourrait produire quelque chose qui ne serait plus tout à fait... peut-être gitan
oui,
ou autre chose,
mais
qui serait quand même quelque chose.
Oui, c'est
qu'est-ce que tu en penses?
C'est ce qu'on appelle la mondialisation.
Alors lui, c'est ce qu'il appelle la mondialité. Ce serait le versant lumineux, justement, de ce qui serait une standardisation.
Il est optimiste, parce que moi, je ne suis pas.
Ni
moi. Parce que la mondialisation, c'est une catastrophe culturelle.
Mais est-ce que quelque chose comme le jazz manouche ou le flamenco, par exemple, serait pas de l'ordre de la créolisation?
Quand on parle des flamencos dans la musique, tout ça, la culture, elle n'a pas de barrières, donc elle peut évoluer. Mais là, on parle d'autre chose. On parle vraiment de notre identité culturelle, de la façon d'être, la façon de penser.
Je crois qu'on est
des choses différentes.
Je crois qu'on se trompe. On se trompe sur la mondialisation. Être contre la mondialisation, c'est un peu comme si on voulait empêcher les vagues de la mer. C'est très difficile, c'est impossible. En tout cas, pour l'instant, c'est impossible. Moi, je crois qu'on doit être, et ça, je le dis, je le pense pour tous les peuples, on doit être bien ancré dans sa culture. Je dis, mais solidement ancré dans sa culture. Et après, on peut aller vers tous les autres. Mais d'abord être ancré dans sa culture. Autrement, eh bien, on n'a pas de, on est comme les feuilles de l'arbre sur la rivière. On est à peu près au même niveau. Et là, du coup, eh bien, toutes les cultures sont condamnées. Moi, avant, je disais nos cultures minoritaires, sont condamnées. Maintenant, je ne dis plus ça. Maintenant, je dis toutes les cultures sont condamnées. On est à contre-courant. Moi, je dis que ma dernière fille, Rajenka, j'ai fait un article, mais je dis qu'elle est la dernière des Mohicans. La dernière des Tziganes, que j'appelle maintenant Mohicans.
Est-ce que chez tes enfants, justement, puisque tu parles de ta dernière fille, je crois, l'importance de cette culture, elle est la même?
Oui, j'ai réussi ça. Oui. Ça, on l'a réussi, mais on ne rêve pas. On sait qu'on est les derniers, on le sait. On est les derniers. Vous ne pouvez pas ouvrir une revue, un journal, une radio, une chaîne de télé, sans qu'on vous dise, tu dois avoir le plus beau costume, la plus belle montre, la plus belle voiture, le plus beau compte en banque, la plus belle femme. On tue les gens avec ça. On les tue. C'est ça la mondialisation. Moi, j'ai connu une France où les gens riches cachaient leur richesse. Alors maintenant, il y a des gens qui vous disent, mais c'est une bande d'abrutis, ça. Il n'y a pas de honte à montrer qu'on est riche. Oui, les Français avaient honte d'être riches. C'était humain. Le mieux aurait été qu'ils ne soient pas riches, je suis d'accord. Et la mondialisation dominée par les États-Unis d'Amérique. Ça ne vient pas de nulle part. Tout vient de là-bas.
Quel est ton regard sur la situation des Roms en France ?
Des Tziganes.
Des Tziganes.
Il faut quand même savoir ce qui... Bon, elle n'est pas merveilleuse la situation, mais il faut savoir ce qui se passe en Roumanie. En Roumanie, un jeune Tzigane traverse un village, il peut très bien avoir 8 ou 10 gars qui arrivent avec des fourches, on l'a eu dans la famille de Delia, et il le tue. On a ça. Elle qui est là, elle a accouché à Bucarest d'un petit garçon. On lui dit, l'enfant est mort-né. Elle dit, bon, très bien, montrez-le-moi. Mais elle ne l'a jamais vu.
Donc il y a une forme de racisme d'État en Roumanie.
Terrible.
Mais que tu penses qu'il n'y a pas ici.
Quand non, ici c'est beaucoup moins grave. Là-bas c'est violent. Quand ils ne le font pas sur une grande échelle, mais ils le font un peu partout en Roumanie. Ils chopent une fille de 14 ans, ils l'amènent de force à l'hôpital et elle est stérilisée. Les Roumains font ça.
Mais quand tu as des associations qui vont par exemple faire des maraudes pour proposer de la contraception.
Elles sont demandeuses, les femmes chez nous, mais ils ne le font pas.
Alors on a balayé beaucoup de questions. Est-ce que tu aimerais nous parler de choses qu'on n'a pas abordées?
Oui, je vais vous raconter une autre histoire,
allez,
puisqu'elle n'est pas là. Alors, pour expliquer un peu plus qui elles sont, je suis sur les Champs-Élysées avec c'est sa tante. Ils ont presque le même âge, mais c'est sa tante. Il y a elle, il y a Delia, puis il y a une autre femme. Il y a un groupe de jeunes qui est assez agressif et qui commence à nous insulter. Moi, je ne fais pas attention parce que ça va dégénérer, on va tous se battre. Et puis elle s'avance vers le gars le plus virulent. Il l'insulte, elle met la main dans sa culotte. Oh, elle sort une serviette pleine de sang et elle lui fout dans la gueule. Eh bien, ça m'a plu. Oh, de l'estébla, mandarque. Voilà comment sont nos femmes. Je peux dire deux, trois proverbes. ne mésestime jamais le corbeau et le loup, car ils savent des choses que tu ignores. Ne te moque jamais des riches, ça pourrait arriver. Si tu es au fond du trou, arrête de creuser. Si tu veux me garder près de toi, attache mes deux mains avec tes deux tresses noires. Quand le papillon, alors le papillon il doit peser 2 grammes, quand le papillon se pose sur la branche, il craint de la briser. Donc normalement, le gars qui entend ça doit se dire, si le papillon qui pèse 2 grammes a peur de briser la branche de l'arbre, qu'est-ce que je suis, moi ? Ben, moi, je suis un ours. Nous avons, Delia et moi, créé Cherry Cliff, le centre artistique Tzigane. Nous essayons de le faire vivre, ce n'est pas facile. Le but, c'est d'arriver à sauver ce qui peut encore être sauvé de notre culture. Il ne faut jamais oublier que c'est une culture qui est née sous le soleil, sur des chemins pierreux. Donc, ce n'est pas une culture banale. Mais voilà, si on peut maintenir un petit quelque chose, c'est ce qu'on essaie de faire avec Cherry Cliff. Et nous sommes toujours très coquins.
La fontanelle. Politique, fragment, sensible.
Fragment sensible et politique.